Bon, on va commencer donc ce séminaire. Donc c'est un plaisir de vous introduire Yann Olivier. Yann Olivier est chercheur au CNRS et maintenant aussi à Facebook. C'est un mathématicien qui vient de la géométrie, fait partie des mathématiciens pas très nombreux qui ont commencé à s'intéresser aux propriétés des réseaux de neurones avec un point de vue de système dynamique et de géométrie. Il a fait beaucoup de très beaux travaux, notamment sur les réseaux de neurones récurrents, pour comprendre comment optimiser ces réseaux en utilisant les bonnes topologies, qui ont eu des applications numériques fort efficaces. Et voilà, il va nous parler de l'apprentissage par renforcement. Merci beaucoup.
Merci. Et donc je vais commencer par une petite vidéo de 1950.
Hello, I'm Claude Shannon, a mathematician here at the Bell Telephone Laboratories. This is Theseus. Theseus is an electrically controlled mouse. He has the ability to solve a certain class of problems by trial and error means and then remember the solution. In other words, he can learn from experience. Like his classical namesake, Theseus has the problem of finding his way through a maze. His objective is the goal here in the corner. He is now exploring the maze using a rather involved strategy of trial and error. As he finds the correct path, he registers the information in his memory. Later, I can put him down in any part of the maze that he's already explored, and he'll be able to go directly to the goal without making a single false turn. Of course, solving a problem and remembering the solution involves a certain level of mental activity and something perhaps akin to a brain. A small computing machine serves Theseus for a brain. Of course, Theseus himself is much too small to contain even a small computing machine. And we have placed the brain cells, if you like, of Theseus behind the mirror here. This is a bank of relays, telephone relays, and the job they do for Theseus is similar to the job they do in your dial telephone system. Each time you use your telephone, the dial system has to remember the number that you dial. Hello, I'm Claude Shannon, a mathematician here at the Bell Telephone.
C'est l'inconvénient de ne pas utiliser son propre ordinateur. Voilà, donc on va être en mode plein écran d'abord. Donc, désolé, en fait je suis malvoyant, donc utiliser un ordinateur qui n'est pas le mien, c'est un petit peu compliqué parfois. Alors, je vais vous parler, donc je suis Yann Olivier, je suis mathématicien non pas au Bell Labs mais au laboratoire de recherche en intelligence artificielle de Facebook à Paris, et je vais vous parler d'apprentissage par renforcement. Donc vous venez de voir ce que c'était que l'apprentissage par renforcement en 1950, je pense que c'est un des premiers, si ce n'est le premier exemple historique de ce qu'on appellerait très clairement aujourd'hui de l'apprentissage par renforcement, avec des côtés amusants sur ce que c'est qu'un ordinateur à l'époque où il y avait essentiellement très peu d'ordinateurs. Donc, qu'est-ce que c'est que l'apprentissage par renforcement en général ? Eh bien, je pense que c'est une des formulations les plus générales du problème de l'intelligence artificielle, à savoir, vous êtes placé dans un environnement que vous ne connaissez pas forcément très bien, vous faites des actions, l'environnement réagit d'une certaine manière en vous renvoyant des observations sur ce qui se passe, donc vous avez accès à des observations visuelles, auditives ou quoi que ce soit, et puis vous avez aussi des récompenses. À chaque instant, vous constatez est-ce que vous êtes content ou est-ce que vous n'êtes pas content, et donc ensuite, votre but, c'est d'ajuster vos actions pour arriver dans des situations où vous êtes content plutôt que des situations où vous n'êtes pas content. Alors formellement, vous avez, du point de vue de l'observateur ou l'agent, émet une action qui peut être bouger vos muscles ou jouer un coup dans un jeu, obtient éventuellement une récompense qui peut être souvent, par exemple, nulle jusqu'à la fin du jeu ou quelque chose comme ça, et reçoit des observations. Et puis, vous émettez une nouvelle action, et ça recommence. Et donc, au fur et à mesure, avec les observations sur votre environnement, vous avez une acquisition d'informations qui vous permet de choisir vos actions. Et donc, votre problème est de trouver une séquence d'actions qui maximise la récompense totale. Donc en général, vous faites face à des environnements qui peuvent être aléatoires, ou en tout cas que vous modélisez comme aléatoires parce que vous avez de la nouvelle information qui arrive à chaque instant que vous ne pouviez pas prévoir. Et donc, ça peut être l'espérance de la récompense totale dans ce cas-là. Donc, les exemples de base... Ceux qui ont fait la une des médias avec AlphaGo il y a quelques années, c'est les jeux, où vous aviez aussi les échecs avec Deep Blue dans les années 90, etc. etc. Donc dans ce cas-là, ce que c'est qu'une action, c'est très très clair, c'est un coup dans le jeu. Une observation, c'est le coup de l'adversaire. C'est une nouvelle observation sur votre environnement. Votre environnement, c'est votre adversaire. Vous avez aussi quelque chose qui sert pas mal, c'est les environnements de jeux vidéo. Parce qu'évidemment, des jeux vidéo, c'est facilement simulable. Donc, on peut tester nos algorithmes d'apprentissage directement en les faisant jouer dans le jeu vidéo, sans avoir à interagir avec un environnement physique. Vous avez des tas d'applications qui relèvent formellement de ce cadre, qui est tout ce qui est du contrôle optimal. Donc, quand vous avez la trajectoire d'un véhicule avec un pilote automatique, il y a une forme de contrôle des actions, de mesure des observations de l'environnement et d'ajustement en fonction. Qui sont en général pas faits directement par apprentissage par renforcement, mais souvent avec des contrôleurs explicites. Vous avez les interactions avec les marchés financiers, pareil, vous avez des actions, acheter, vendre, observer les cours, et vous avez une reward qui est très très claire dans ce cas-là. On aimerait bien avoir un jour des robots pour des tâches spécifiques. Vous imaginez un petit robot que vous entraînez à faire le ménage en lui donnant une récompense quand le ménage est bien fait chez vous et en le punissant lorsque le ménage est mal fait. Et puis, ultimement, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir quasiment l'humain comme appliquant un algorithme d'apprentissage par renforcement. Si vous imaginez quand vous êtes un bébé, vous ne comprenez rien à ce qui se passe autour de vous, vous faites des choses, vous voyez qu'il y a des conséquences, vous voyez que vous êtes capable de prendre des objets, de faire tomber des objets, c'est très très drôle. Et dans ce cas-là, petit à petit, on apprend à ajuster et à affiner ses actions de manière à obtenir des récompenses, c'est-à-dire des états qui nous plaisent plutôt que des états qui ne nous plaisent pas. Donc ça, c'est le cas d'usage qui est le plus intéressant si on veut construire une intelligence artificielle un peu générique. On n'en est évidemment pas là. Et puis, il y a un point dont je voudrais parler, c'est quelle récompense. C'est-à-dire que là, j'ai supposé que les récompenses étaient directement données par l'environnement. Vous constatez si vous êtes content ou pas content. Et par contre, si vous devez un jour faire une intelligence artificielle, ce sera à vous, le concepteur, de choisir la fonction de récompense. Il faut faire très attention. Donc imaginez que, par exemple, vous mettez un robot d'aide médicale dont le but est de plâtrer des bras cassés pour soigner. Donc vous avez envie spontanément de dire on va lui mettre une récompense chaque fois qu'il répare un bras cassé. Bien. Maintenant, vous avez un robot dont l'unique joie dans la vie est de réparer des bras cassés. Donc quelle est l'action optimale pour ce robot ? C'est de vous casser le bras pour pouvoir le soigner ensuite. Donc, il faut faire très attention à donner les bonnes incitations. En fait, on peut soupçonner qu'il y a une partie de notre économie qui tourne un peu comme ça, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont clairement intérêt à provoquer le genre de problèmes qu'ils sont capables de résoudre. Donc les gens qu'il faudra consulter pour ce genre de choses, c'est des gens en philosophie. Vous avez les problèmes classiques de la voiture autonome, est-ce qu'il vaut mieux tuer une personne âgée ou 5 piétons, ou 5 piétons plus jeunes, si on a le choix, ou des choses comme ça. Et bien sûr, des économistes, parce que le paradoxe sur les récompenses du robot qui vous casse le bras, ça, ce sont des choses qui sont assez étudiées dans la littérature de microéconomie, de bien placer les incitations des différents agents pour que pour que les agents aient bien intérêt à agir dans l'intérêt général et pas dans l'intérêt particulier d'une récompense qui fait des effets pervers. Donc ça, il faudra bien y réfléchir. C'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Donc, dans la suite de l'exposé, je vais me concentrer plutôt sur les mathématiques en supposant que les récompenses sont données. Mais il ne faut vraiment pas oublier que dans les applications réelles, le choix des récompenses sera quelque chose d'absolument crucial. Et donc, bien sûr, il y a des techniques pour ça autour de l'imitation de l'humain ou de ce qu'on appelle l'apprentissage par renforcement inverse. Il faut bien garder ça en tête. Donc, dans mon exposé, je vais avoir deux problèmes qui, à mon avis, sont assez distincts. Le premier, c'est qu'est-ce qu'on veut calculer, à savoir c'est quoi un agent optimal. Si vous avez des informations, des actions et des récompenses, qu'est-ce que c'est que, idéalement, votre comportement optimal dans cet environnement-là ? Donc ça, avant de se lancer dans des algorithmes, il faut savoir ce qui est censé calculer l'algorithme ou ce qui est censé approximer l'algorithme. Et donc, la réponse sera donnée par ce qu'on appelle la fonction valeur dans un environnement incertain. Donc il y a certains états qui vous plaisent plus que d'autres, et ce sont ceux qui ont des récompenses futures espérées très grandes. Et donc dans ce cas-là, on essaye de se placer plus dans ces états-là. Et si vous avez un environnement non pas spécifié à l'avance, comme dans un jeu vidéo ou dans un jeu d'échecs, mais que vous avez juste l'environnement réel tel qu'il est, sans autre information, donc c'est le cas du bébé qui découvre le monde, qu'est-ce que c'est qu'un comportement optimal en toute généralité dans un environnement totalement inconnu ? Donc ça, c'est des questions. On va d'abord définir le comportement optimal, et ensuite, la question qui se pose naturellement, c'est comment le calculer en pratique, ou au moins comment l'approximer en pratique. Et là, vous avez dans certains cadres d'environnement très spécifiques, on a des solutions exactes, mais la plupart du temps, on doit se contenter de solutions approximatives. Et c'est là que viennent l'apprentissage statistique, les méthodes de Monte Carlo, les réseaux de neurones, etc. Donc c'est deux problèmes bien distincts, et en fait, je vais plus parler, je pense, du premier que du deuxième. Donc que veut-on calculer ? Donc revenons à un jeu très classique, par exemple le cadre des échecs ou même du morpion, et dans ce cas-là, on connaît parfaitement les règles du jeu et l'état total du jeu est visible pour tout le monde à tous les instants. Par exemple, c'est le cas pour les échecs ou pour le morpion, c'est pas le cas au poker. Mais dans ce cas-là, vous avez un algorithme bien connu qui est l'algorithme minimax, qui vous dit, eh bien, à chaque instant, vous partez de la fin. Donc, au dernier instant, c'est clair que votre action optimale, c'est celle qui maximise la récompense que vous aurez juste après avoir pris cette action. Mais dans le cas des jeux, vous avez un adversaire qui veut faire exactement l'inverse. Donc lui, il va sélectionner une dernière action qui va minimiser. Et vous, vous allez devoir maximiser à l'action d'avant pour que son minimum soit le plus haut possible. Et puis vous remontez. Donc vous obtenez l'algorithme dit du minimax. Donc vous tracez l'arbre total du jeu. Vous partez de la fin où vous connaissez les récompenses. Il y a un joueur qui essaie de minimiser la récompense totale. Votre récompense, c'est 1 si vous gagnez, donc pour lui, c'est moins 1. Et l'autre joueur, c'est vous, vous essayez de maximiser, et donc vous trouvez les chemins. Et chaque état acquiert une valeur qui est, si chaque joueur joue optimalement jusqu'au bout, sur quoi on arrive. Et bien sûr, vous choisissez l'action qui maximise cette valeur. Donc ça, c'est un algorithme qui est connu depuis très longtemps, qui nécessite de développer tout l'arbre des possibles dans le jeu et de remonter à partir de la fin par cette opération de type minimax. Donc ensuite, une fois que vous connaissez ces fonctions valeurs, une fois que vous connaissez toutes les valeurs de minimax pour toutes les situations possibles dans le jeu, vous pouvez à chaque instant choisir l'action qui maximise la valeur du prochain état. Donc la fonction valeur, c'est ce max min de max de min. Alors pour ceux qui ont eu des cours d'apprentissage par renforcement, vous avez entendu parler de fonction V et de fonction Q. Donc la fonction valeur V, telle que je l'ai définie, elle contient à la fois V et Q, au sens où, n'oubliez pas que dans ma notation, A, ce sont vos actions, et O, ce sont vos observations de l'environnement, qui, dans le cas d'un jeu, sont les actions de votre adversaire. Et donc, l'état du jeu, il est défini par l'ensemble des actions de vous et de votre adversaire depuis le début du jeu. Et donc, vous avez une fonction valeur qui dépend de tout l'historique. Et dans un jeu, vous avez bien sûr deux types d'états. Les états où c'est à vous de jouer et l'état où c'est à votre adversaire de jouer. Et donc, la fonction V, c'est la fonction valeur des états où c'est à vous de jouer, et la fonction Q, traditionnellement dans les cours d'apprentissage par renforcement, c'est la fonction valeur quand c'est à votre adversaire de jouer. Donc là, j'ai mis les deux ensemble, c'est plus pratique, c'est beaucoup plus pratique au niveau formel. Voilà, donc c'est un détail de notation, mais vous allez retrouver cette notation dans tout l'exposé, où je ne fais pas la différence, parce que c'est vraiment le même objet. Donc, comme je disais, la fonction valeur, si on a un jeu qu'on est capable d'énumérer complètement, comme le morpion, la fonction valeur, on sait la calculer, à partir de la fin du jeu, par le minimax, et elle satisfait une équation de récurrence vers le passé. Si vous connaissez les fonctions valeurs des prochains états, vous êtes capable de calculer la fonction valeur de l'état actuel juste en prenant le maximum sur l'action que vous êtes capable de jouer. Des fonctions valeurs au prochain état. Donc ça donne un algorithme qui, en général, n'est pas raisonnable parce qu'il faut dresser l'arbre total de toutes les parties possibles dans le jeu et calculer le minimax à partir de la fin. C'est raisonnable au morpion et pas grand-chose d'autre. Voilà. Donc, on a cet algorithme qui n'est pas raisonnable, mais qui donne une idée de ce qu'on aimerait calculer. Donc, c'est la réponse idéale. Et toute la suite va consister à essayer d'approximer ça. Donc, ça, c'était pour un jeu explicite, avec des coûts et des états discrets. Si les états sont continus, on ne peut même pas maintenir l'arbre, parce que l'arbre, c'est un objet continu, on ne peut pas lister toutes les valeurs de tous les états possibles. Mais, de manière plus générale, si on revient au problème général de l'apprentissage par renforcement, où vous avez des récompenses à chaque instant, et pas juste une récompense à la fin, on a exactement la même situation. Sauf que l'équation de récurrence pour la fonction valeur change un petit peu. La fonction valeur à un état actuel du jeu, c'est la récompense que vous allez avoir tout de suite dans cet état, plus les récompenses que vous allez avoir après. Et donc, il y a une équation du type valeur de l'état actuel égale ma récompense immédiate plus la valeur de l'état que je vais avoir dans une seconde. La valeur de l'état que je vais avoir dans une seconde, je la maximise sur mes actions. Elle est aussi minimisée juste au coup d'après par l'adversaire. Et donc, vous avez cette équation de récurrence qui est la valeur d'un état, c'est le max sur votre action, du min sur le prochain coup de l'adversaire, de la récompense immédiate plus la valeur après, la valeur au coup d'après. Donc ça, c'est l'équation de Bellman. Et donc, dans le cas d'un jeu ou d'un environnement qui vous veut du mal, c'est un max de min. Dans le cas d'un environnement qui ne vous veut pas du mal, c'est plutôt un max d'une espérance, si vous avez un environnement qui est stochastique. Et là, je vous rappelle une fois de plus que, de manière générale, la notation OT, c'est pour les observations qui vous viennent de l'environnement. Et donc, vous faites une action, l'environnement, il a une réaction aléatoire, et il vous fournit des nouvelles observations qui peuvent vous donner une information complète ou incomplète, j'ai pas fait la différence. Et ça vous donne cette équation de Bellman. Là, je l'ai écrit. Donc, si on sait résoudre cette équation de Bellman, on sait quelles actions il faut prendre par cet algorithme de type maximin ou maxi-expérience. Donc, si on savait lister tous les états du jeu. Il y a une difficulté supplémentaire, c'est que dans le cas d'un environnement inconnu, la loi, le prochain coup, n'est pas connu, même en loi. Donc, il va falloir l'inférer à partir d'observations ou de parties réelles du jeu ou quelque chose comme ça. Et c'est là que l'apprentissage statistique va commencer à arriver. Et alors, il y a un cas quand même qui est assez important où la loi est connue, c'est quand vous êtes dans un jeu de type échec ou go et que vous êtes en train de faire un programme qui apprend à jouer au jeu en jouant contre lui-même. Parce que dans ce cas-là, évidemment, comme vous avez le même programme des deux côtés et que c'est vous qui avez écrit le programme, vous pouvez simuler des deux côtés. Donc dans ce cas-là, vous connaissez la loi de l'espérance, et ça aide beaucoup, hein, évidemment. Mais ce n'est pas le cas général. Quand vous interagissez contre un adversaire inconnu, vous devez, d'une manière ou d'une autre, implicitement ou explicitement, modéliser cette espérance sur les réactions de l'environnement. Donc, en général, la valeur de la récompense n'est pas connue non plus. Donc dans le cas des échecs ou du Go, on est capable de, enfin dans le cas des échecs au moins, le Go est plus compliqué, on est capable de, on connaît à l'avance les règles qui font qu'on gagne ou qu'on perd. Dans un environnement réel, on est juste capable de constater si oui ou non, tiens, on a gagné, on a perdu, mais on ne sait pas pourquoi. Donc il faudrait, en principe, si on était vraiment dans le cadre de l'apprentissage par renforcement, on devrait découvrir tout seul les règles du mat aux échecs, par exemple. Alors, en général, dans les échecs ou le Go, évidemment, ils ne font pas comme ça, on a des règles connues, donc on les utilise. Mais en général, on ne sait pas. Et donc, ça donne un certain nombre de problèmes, parce que imaginez que vous avez fait N actions dans le passé, et vous avez obtenu des récompenses à chaque instant, vous avez obtenu N récompenses, et vous ne comprenez pas pourquoi à certains moments on vous a tapé dessus, et pourquoi à certains moments on vous a dit c'est très bien. Donc, qu'est-ce que vous faites ? Vous faites un petit modèle linéaire en disant, bah tiens, en première approximation, la récompense, c'est peut-être une fonction linéaire des dernières actions que j'ai prises. Bon, à l'instant n, vous avez n actions, vous avez n observations de récompense, votre modèle linéaire, il va très très bien marcher. À l'instant n. À l'instant n plus 1, il ne va plus du tout marcher. Donc ça, évidemment, ça vous indique que vous devez implicitement ou explicitement faire des modèles de vos récompenses en fonction de tout le passé. Et évidemment, ces modèles doivent aussi être appris avec des priors. Et le prior, il y a un prior qui dit si vous avez n observations, il faut éviter de prendre un modèle qui a n degrés de liberté parce que sinon, vous allez apprendre n'importe quoi. Donc, c'est ça, c'est là que les notions de prior ou de modélisation de l'environnement interviennent. Donc, imaginez que vous connaissez le modèle de l'environnement. Par exemple, il y a des situations où on suppose que la trajectoire de votre avion, je ne sais pas trop quoi, elle est donnée par les équations de Newton, plus un bruit stochastique, mais dont vous connaissez la loi, vous avez décidé que le bruit sur la trajectoire de l'avion, c'est la loi des turbulences atmosphériques, c'est par exemple une gaussienne de variance ceci. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce que vous faites ? Ben, vous injectez ce modèle dans les espérances précédentes. Donc un modèle, techniquement, c'est quoi ? C'est juste une loi de probabilité sur le futur qui contient toutes les récompenses et toutes les réactions de l'environnement en fonction de vos actions et de toutes les observations passées. Et dans ce cas-là, on injecte la loi de l'environnement dans le modèle. C'est intéressant. Bien. Je vais faire ça au tableau. Hein. Est-ce que je pourrais avoir la lumière et relever l'écran, s'il vous plaît ? Donc, vous injectez votre environnement dans l'expectimax et vous avez la fonction valeur d'une séquence d'action A1, O1, AT, OT, qui est, en fait, le max sur... le max sur AT plus 1, disons, de l'espérance selon votre modèle, donc que je peux remplacer par, disons, une intégrale sur OT et RT, et RT de la récompense OT plus 1, RT plus 1, de RT, OT plus 1 et RT, de RT plus V de à 1 au 1. A, T, O, T, A, T plus 1, O, T plus 1, fois la probabilité de tout ça dans votre modèle, de la prochaine réaction d'environnement selon le modèle. Donc ça, c'est un modèle fixé. Donc RT OT plus 1. Sachant tout ce qu'il y a avant, A1 jusqu'à OT. Donc, ça, c'est si vous avez un modèle connu. Et vous avez ensuite, en général, on a des incertitudes sur le modèle. Et donc, ce qu'on aime bien faire, si on est un petit peu bayésien, c'est d'introduire des probas a priori sur les modèles. Et alors là, l'équation est un petit peu fausse, parce que donc ce serait le postérieur. Et donc, je vais vous réécrire l'équation totale dans le cas du postérieur. Pourquoi on a besoin de prior? Pourquoi on a besoin de prior? Eh bien, imaginez qu'on vous dise aux échecs, on a analysé totalement le jeu d'échecs et on a compris qu'on pouvait toujours faire une partie nulle. Donc si on vous propose une partie d'échecs, c'est pas la peine de jouer. La stratégie optimale consiste à abandonner immédiatement pour pas perdre votre temps. Maintenant, si je vous propose de jouer une partie d'échecs contre quelqu'un dans la rue et de vous donner 1 million d'euros si vous gagnez, est-ce que vous allez suivre la stratégie optimale? Oui, vous allez suivre la stratégie optimale, mais pas la stratégie minimax optimale. Vous allez suivre la stratégie optimale sur l'espérance de la capacité à jouer aux échecs de quelqu'un qui est pris dans la rue. Cette espérance-là, elle a une distribution empirique qui n'est pas le joueur rationnel optimal qui joue la stratégie optimale, qui est, vous allez avoir des bons joueurs, des mauvais joueurs, etc. Et vous allez observer en temps réel sur les premiers coups du joueur si ça a l'air d'être un bon joueur ou un mauvais joueur. Si c'est un très bon joueur, vous allez suivre la stratégie minimax optimale en disant j'abandonne. Si c'est un mauvais joueur, vous allez exploiter ça. Et ce qui veut dire que contre un environnement qui n'est pas optimal, la stratégie minimax optimale peut être sous-optimale. Donc on n'a pas toujours intérêt à jouer la stratégie minimax optimale, qui est une stratégie dans le pire des cas, si je puis dire. On a souvent intérêt à jouer une stratégie bayésienne optimale en faisant des modèles de l'adversaire ou des modèles de l'environnement et en apprenant en temps réel le modèle de l'environnement. Et l'équation qu'on trouve à la fin quand on fait ça, c'est une équation du type expectimax donc ça va être max sur AT plus 1 d'une espérance sur RT et OT plus 1 du max sur le coup d'après AT plus 2 d'une espérance sur RT plus 1 et OT plus 2, de, etc., etc. Donc vous allez avoir la somme des récompenses futures, RT plus, disons, la dernière récompense, grand T, fois la probabilité dans le modèle de tout le futur, de toutes les réactions futures dans l'environnement, RT, OT plus 1, R grand T, sachant toutes les actions, donc O, 1, T, R, 1, T, et A grand 1, grand T, fois le prior du modèle M. Donc évidemment, dans ce cas-là, il faut choisir l'ensemble des modèles et le prior. Donc en général, on ne sait pas faire. Il y a des cas où on sait faire. Il y a des cas, par exemple, si vous avez suivi des cours d'apprentissage par renforcement, vous avez sûrement entendu parler de bandits manchots, où vous avez 5 actions À chaque instant, vous avez une récompense qui ne dépend que de la dernière action, c'est la spécificité des bandits. Et dans ce cas-là, vous savez qu'il y a des tas de théorèmes sur des stratégies asymptotiquement optimales. Eh bien, ces résultats-là, au départ, viennent d'une analyse bayésienne qui avait été faite pendant les années 50, qui consistait à dire, la récompense de chaque action possible, elle est plus ou moins uniforme, a priori, entre 0 et 1. Je fais quelques actions, j'observe des récompenses, je mets à jour mon postérieur bayésien, et j'optimise avec quelque chose comme ça. Et asymptotiquement, vous êtes capable, en fait, de calculer les fonctions valeurs, et ça vous donne exactement les intervalles de confiance sur les récompenses, et du coup, votre stratégie optimale. Alors, quelles sont les conséquences de ce point de vue bayésien ? Alors, une première conséquence, c'est que l'exploration de nouvelles options acquiert une valeur intrinsèque, à savoir, chaque fois que vous avez une nouvelle observation, ça change votre postérieur. Et donc, ça change la valeur de votre environnement, puisque ça change la valeur de la connaissance. Et ça le fait de manière complètement canonique, au sens où, si vous avez un environnement où il y a deux portes, et il y a une porte où il y a un trésor et une porte où il y a un tigre, c'est un environnement classique d'apprentissage par renforcement, et que vous avez une action qui consiste à écouter pour savoir si vous entendez un tigre rugir derrière une des portes, eh bien, en environnement certain, si vous connaissez la réponse, vous allez juste sur le trésor. En environnement incertain, l'action d'écouter devient optimale. Et elle devient optimale pas parce qu'on a décidé de rajouter une valeur en disant « Tiens, si j'explore, c'est bien parce que j'ai rajouté de l'exploration anthropique ou je ne sais pas trop quoi. » Elle devient optimale parce que, écoutez, ça change votre postérieur, donc ça change l'état du monde. Dans cette situation-là, l'état du monde, en fait, c'est défini par votre postérieur bayésien sur les environnements. Ça change l'état du monde. Et la fonction valeur d'un postérieur bayésien qui est un demi sur la position du tigre n'est pas du tout la même que la fonction valeur d'un postérieur bayésien qui est 1 sur le tigre est à droite et le trésor est à gauche. Et donc vous obtenez gratuitement, conceptuellement, pas gratuitement algorithmiquement, vous obtenez gratuitement une notion de prime à l'exploration qui sort toute seule de ce point de vue. Et ce point de vue, en plus, peut se voir... Donc là, je vous ai dit, on est en environnement incertain, on a des priors sur les environnements, etc. Si vous changez d'espace, vous passez dans l'espace plus abstrait des postérieurs bayésiens, là, vous êtes d'un seul coup dans un environnement certain dans cet espace plus abstrait, à savoir, vous connaissez la dynamique. La dynamique des postérieurs bayésiens, c'est chaque fois que vous avez une nouvelle observation, votre postérieur change d'après la règle de Bayes. Et donc ça, c'est une dynamique connue dans un espace qui a changé. Donc ça permet de transférer les théorèmes du cas non bayésien vers le cas bayésien sans effort au prix d'un changement d'espace qui se paye en dimensionnalité, bien sûr. Donc ça, c'est une des conséquences de ce point de vue bayésien. Il n'y a pas d'histoire de prime à l'exploration qu'on rajoute artificiellement à la main, elle sort toute seule de manière canonique, par l'acquisition d'informations. Et surtout par le gain de récompense que l'acquisition d'informations vous permet. Ensuite, vous avez d'autres particularités un peu amusantes de ce point de vue bayésien, qui est, contrairement aux statistiques classiques, vous n'oubliez jamais complètement le prior. Il y a un cas où vous n'oubliez pas le prior, c'est quand certaines actions ont des conséquences permanentes. Si, par exemple, vous avez un prior qui vous dit que se donner un coup de marteau sur la tête, ça vous tue, peut-être que votre prior, il est faux. On n'en sait rien, il n'y a jamais eu d'études randomisées qui faisaient le test. Peut-être que votre prior, il est faux, mais vous n'allez jamais faire l'essai. Même si vous aviez 1 million d'années, vous le feriez pas. Et donc, dans le cas... C'est un peu différent des statistiques classiques où si on fait assez d'expériences, on finit par oublier le prior bayésien. Et la différence vient qu'il y a des effets temporels et que certaines actions peuvent potentiellement avoir des effets pour toujours. Donc ça, c'est une différence importante. Et c'est une différence qui mathématiquement est un peu troublante peut-être, mais qui vous protège parce que si vous avez un prior que certaines actions sont suicidaires, vous n'allez jamais les essayer. Donc, une autre conséquence de ce point de vue, donc vous avez ces prieurs que vous n'essayez jamais. Par contre, si vos actions, si vous êtes dans un environnement un peu stationnaire, un peu ergodique, et que les actions n'ont pas d'effet permanent, juste des effets temporaires, là, vous revenez dans une situation plus proche des statistiques classiques, où tout... où votre prior finit par s'effacer et vous êtes dans un cas de type bandit manchot où vous savez que vos récompenses dépendent de vos dernières actions, vous testez un peu toutes les actions, vous allez finir par passer un peu partout et donc vous allez avoir ces conséquences-là. Alors, ensuite, il y a bien sûr le choix du prior. Et là, je vais rentrer dans des considérations plus philosophiques. Donc il y a un prior canonique universel. Là, je voudrais revenir vers l'intelligence artificielle générale. Que doit faire le bébé qui découvre un environnement, ou si vous, on vous met sur la planète Mars avec des martiens qui ont des coutumes différentes, des lois de la physique différentes, ou je ne sais pas trop quoi, qu'est-ce que vous devez faire? Donc là, il faut choisir un prior sur les environnements. Donc, dans un certain nombre de cas, on a un prior que l'environnement est gaussien avec une certaine variance ou je ne sais pas trop quoi. Mais de manière générale, ce qu'on veut, c'est que si vous vous placez dans un environnement inconnu, mais où il y a des règles de la physique, à savoir les objets tombent, vous devez être capable d'apprendre ces règles. Et ça veut dire que vous devez être capable de prédire les réactions futures de l'environnement à partir des réactions passées. Et ça, ça n'est possible, bien sûr, que s'il y a des lois de la physique dans l'environnement, ou des règles cachées. Donc là, c'est lié au problème de l'induction. Et le problème de l'induction, c'est... le problème de l'induction, c'est par exemple, vous avez une séquence 2, 4, 6, 8, 10, 12, qu'est-ce qui vient après? Donc là, normalement, tout le monde répond 14, sauf les mathématiciens. Les mathématiciens disent, oui, mais toutes les suites entières existent, donc ça pourrait très bien être moins 3. Et la réponse à ça, c'est que 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, elle n'est pas égale à 2, 4, 6, 8, 10, 12, moins 3, parce qu'elle est plus simple. Et elle est plus simple parce que vous avez une définition de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 qui est plus simple que la définition de 2, 4, 6, 8, 10, 12, moins 3. Qu'est-ce que c'est qu'une définition? Une définition, c'est un programme qui calcule la suite. Donc si vous voulez faire un programme qui imprime la suite des nombres pairs, c'est très facile. Si vous voulez faire un programme qui imprime la suite des nombres pairs avec des exceptions, il faut mettre les exceptions dans le programme et votre programme devient plus long. Donc, ce qui a été proposé dans les années 60, c'est d'introduire un prior universel sur les environnements en disant « je vais d'abord supposer que mon environnement est simple ». Parce que s'il est compliqué, de toute façon, s'il n'y a pas de règles dans l'environnement, j'ai aucune chance. Mais s'il y a des règles, toutes les règles dans l'environnement, toute régularité dans l'environnement me permet d'écrire un programme un petit peu plus court qui calcule l'évolution de l'environnement. S'il n'y a aucune structure, je vois que du bruit, donc je dois coder chaque valeur à la main. S'il y a de la structure, je peux écrire un programme qui calcule la structure, et ça, c'est plus court que de donner, que de lister toutes les valeurs possibles de la suite. Et donc, le prior qui a été proposé, c'est justement la longueur, donc c'est de donner plus de poids aux environnements où il y a des lois de la physique, ou aux environnements simples. Donc ça, c'est lié à la complexité de Kolmogorov, c'est la longueur du plus petit programme qui calcule le modèle. Qui calcule M. Donc, calculer le modèle M, je vous ai dit, M, c'est une loi de proba sur le futur sachant le passé. Bon, ben ça, vous faites un programme qui calcule cette proba. Donc ça, alors bien sûr, il faut sommer, pardon, j'ai oublié, une somme sur tous les environnements possibles. Donc là, vous avez une formule close pour le comportement optimal dans un environnement inconnu. C'est, au jour d'aujourd'hui, la meilleure définition mathématique qu'on ait d'une intelligence artificielle générale. Au sens, qu'est-ce que vous faites? Vous listez tous les univers possibles, compatibles avec vos observations passées. Vous les classez en supposant qu'il y a des lois simples plutôt que des lois compliquées ou pas de lois du tout. Vous avez un prior bayésien qui correspond à ça. Et ensuite, vous résolvez le problème du minimax avec ce prior-là. Donc le problème de l'induction du coup devient complètement mathématiquement bien défini. Ça, c'est un algorithme qui s'appelle AXI. La personne qui a proposé cette variante-là précisément, c'est Marcus Hutter. Et comme je vous dis, c'est la meilleure définition qu'on a aujourd'hui d'un agent optimal dans un environnement inconnu. C'est une formule close, c'est canonique. Algorithmiquement, c'est complètement délirant. Vous devez lister tous les univers possibles et ensuite optimiser sur toutes les séquences d'actions possibles. Donc, algorithmiquement, on plane. Ensuite, donc ça conclut la première partie de mon exposé, qui est qu'est-ce qu'on veut calculer ? Ce qu'on veut calculer, c'est ça. La deuxième partie, c'est comment on le calcule, ou, vu la tête de la chose, comment on l'approxime. Donc, pour ça, c'est là qu'on commence à parler de réseaux de neurones, etc. Qu'est-ce que vous pouvez faire si vous avez un environnement avec des règles plus ou moins connues, des récompenses plus ou moins connues, et vous cherchez à calculer cette fonction V? La première chose qui a été faite historiquement, c'est d'encoder une fonction V à la main par un expert. Donc ça, c'est le cas, bien sûr, des échecs. Le premier programme ou la première stratégie de programme pour jouer automatiquement aux échecs, c'est encore Claude Shannon, en 1950, qui vous dit, par exemple, aux échecs, on peut approximer une fonction V qui est, en gros, le nombre de pièces que vous avez avec plus de points pour une dame que pour un pion. Ça, c'est une approximation de fonction V, ou au moins d'une fonction qui vous fait choisir les mêmes actions que la vraie fonction V, à peu près. Donc vous la faites coder à la main par un expert. Le papier de Shannon sur le sujet en 1950 est assez rigolo parce qu'en 1950, les gens ne savent pas programmer, les gens ne savent pas ce que c'est qu'un ordinateur. Donc il y a des parties de l'article qui sont consacrées à expliquer que oui, on peut écrire un programme pour lister tous les mouvements possibles d'une tour ou d'un fou. Et ça, ce n'est pas évident à l'époque. Alors qu'aujourd'hui, lister tous les mouvements possibles d'un fou, ça nous paraît juste, on énumère la diagonale et puis voilà. Et ensuite, il y a une partie où, il n'y a pas les espérances et les priors, c'est juste du minimax, mais où il parle de minimax avec une fonction V approchée. Donc, ça, c'est une possibilité. Une autre possibilité, c'est de se placer dans un cas où on est capable de calculer la fonction V mathématiquement, algébriquement. Ça, c'est le cas, par exemple, pour certains modèles de marché financier. Si vous supposez que les cours de bourse, c'est un brownien exponentiel avec un certain bruit, et que par ailleurs vous pouvez garder votre argent sur votre matelas, on peut calculer le minimax explicitement, et c'est assez marrant en fait. La solution optimale consiste dans ce cas-là à garder une proportion constante d'argent à la fois en bourse et sous votre matelas, et donc quand la bourse monte en fait vous vendez, et quand la bourse descend vous rachetez. C'est bien ça qui est optimal. Par contre, la proportion constante en question dépend de la tendance à long terme que vous supposez pour la bourse. Par exemple, si la bourse est stationnaire à long terme, votre tendance en question, c'est zéro. Et votre fraction, c'est 1/2 dans ce cas-là, parce que vous tirez parti du bruit. Donc ça, c'est des situations où on sait calculer la fonction V exactement. Il y a une autre situation où on sait la calculer, c'est pour les systèmes dynamiques linéaires avec bruit gaussien. Et coût quadratique, donc récompense quadratique par rapport à une erreur, par rapport à une valeur cible. Et dans ce cas-là, on sait tout calculer, on sait tout écrire aussi. En général, on ne sait pas faire. Et donc, quand on ne sait pas faire, il y a deux stratégies. Je vais revenir sur l'équation de Bellman. Donc, par exemple, V de A1 O1 AT. Donc ça, c'est en fait une fonction Q hein, dans vos cours de machine learning. C'est l'espérance sur OT de la récompense à l'instant T plus le max sur AT plus 1 de V de A1 O1 à T plus 1. Donc OT à T plus 1. Euh, Donc ça, c'est l'équation de l'algorithme qui s'appelle Q-learning. Et qu'est-ce qu'on fait quand on veut résoudre ça? Eh bien, on a deux possibilités. Soit on essaie de faire une approximation du minimax en repensant au cadre des échecs, etc., et en explorant l'arbre. Soit on cherche directement une fonction dans une certaine classe de fonctions qui vérifie à peu près ça. Dans une classe de fonctions, par exemple, de famille de fonctions linéaires ou de réseaux de neurones ou quelque chose comme ça. Donc je vais d'abord parler un petit peu très rapidement de la première option, essayer de faire du minimax approximatif dans un arbre. Donc là, vous avez, c'est ce qui a fait les premiers succès du jeu de Go, non pas par DeepMind, mais plutôt vers 2006 avec les techniques type Monte Carlo Tree Search. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez faire du stochastique, de l'exploration de l'arbre stochastique, au lieu de l'exploration en minimax. Donc vous allez dire, par exemple, je vais jouer des parties aléatoires et je vais regarder les statistiques sur la première action. Donc mes premières actions possibles, j'en ai pas tant que ça. Donc je les essaye toutes 100 fois, je fais des statistiques. Et si je vois qu'il y a une action qui domine, à partir de ce moment-là, je vais prendre un petit peu plus souvent celle-là et un petit peu moins les autres. Et donc, votre exploration, petit à petit, va se concentrer sur un choix pour la première action. Sur la deuxième action, ça va être pareil. Vous allez faire des statistiques sur les effets de la deuxième action en moyenne. Et vous allez prendre un peu plus souvent les chemins qui ont l'air un peu plus prometteurs. Le diable est dans les détails. Les critères pour un peu plus souvent, plus prometteurs, etc., sont inspirés de ce qui se passe dans le cas des bandits. Et donc, ce qui se passe avec cet algorithme, c'est que petit à petit, au début, vous jouez complètement au hasard, et petit à petit, vous vous concentrez sur une sous-partie de l'arbre qui est celle des actions les plus prometteuses, en commençant par le choix de la première action. Et évidemment, chaque fois, si l'adversaire joue un coup et que ça vous ramène dans une situation complètement inconnue que vous n'avez jamais vue avant, vous êtes obligé de tout recommencer à zéro à partir de cette nouvelle situation. Donc ça, c'est l'algorithme type Monte Carlo Tree Search, qui a été fait principalement par des gens de l'INRIA, et qui a donné vraiment... c'est ça qui a débloqué le jeu de Go. Donc, les premiers résultats avec MoGo sont sortis vers 2006-2007, et c'était sur des plus petits... Goban, et avec un handicap pour la machine, mais ça commençait à jouer de manière raisonnable, alors qu'avant, ça jouait pas bien du tout. Et donc, à ce moment-là, les gens se sont dit, bon, bah, c'est bon, le Go, on n'y est pas encore tout à fait, mais... On a compris un truc, maintenant c'est clair qu'il y a un moment ou un autre où on va arriver à battre l'humain au Go. On se disait ça vers 2006-2007. Il a quand même fallu attendre quelques années de plus, et quelques idées en plus quand même, en particulier les réseaux de neurones. Donc une des faiblesses, il y a plusieurs faiblesses de cette approche, on reste sur des états discrets, il faut pouvoir énumérer les actions, énumérer les états, lister tous les états visités, etc. Donc en continu, on passe jamais vraiment deux fois dans le même état, donc ça commence à être problématique. Il n'y a pas du tout de généralisation des états visités vers les états qu'on n'a jamais vus. Quand on n'a jamais vu, il faut tout recommencer. Donc là, les gens ont quand même mis un peu de transfert avec des transferts à la main d'informations vers les états non visités, visités vers non visités, fait plus ou moins à la main, ça marchait plus ou moins bien. Ensuite, ce qui a fait marcher les choses, donc vous avez tous entendu parler de DeepMind en 2015 et un peu après avec AlphaGo, AlphaGo Zero. Donc quel est le principe? Donc si je reviens à Claude Shannon et à sa fonction valeur codée à la main pour les échecs, vous avez, bien sûr, vous ne jouez pas directement avec la fonction valeur du prochain état. Ça, c'est ce que fait un enfant de 4 ans quand il apprend à jouer aux échecs. Il veut maximiser le nombre de pièces qu'il a juste un coup après. Donc c'est une stratégie assez naïve. Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez cette fonction de valeur approchée et puis vous regardez 3 ou 4 coups à l'avance en faisant du minimax. Et ça, ça vous donne une nouvelle fonction valeur qui est en général bien meilleure que la fonction valeur approchée avec laquelle vous aviez commencé. Donc, vous avez une fonction valeur, vous développez l'équation max espérance ou max min sur 4 coups à l'avance et ça vous fait une nouvelle fonction valeur. C'est à peu près l'équation du Q-learning ici, sauf que vous en faites 4 au lieu d'un coup. Évidemment, c'est coûteux parce qu'il faut quand même développer l'arbre à profondeur 4. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez remplacer le max min à profondeur 4 par quelque chose comme Monte Carlo Tree Search. Donc, vous avez une fonction valeur approximative, vous faites un peu de Monte Carlo Tree Search dessus, Alors Monte Carlo Research, du coup, vous êtes moins limité en profondeur, puisque Monte Carlo Research, il se focalise sur une sous-partie de l'arbre, et donc de temps en temps, il va jusqu'au bout et il acquiert de la vraie information, et pas de l'information hypothétique. Et donc, vous obtenez une nouvelle fonction valeur. Qu'est-ce que vous faites ? Vous entraînez un modèle d'apprentissage statistique sur la nouvelle fonction valeur, pour être capable de représenter votre fonction valeur et surtout de l'extrapoler à des situations que vous n'avez jamais vues. C'est le rôle de l'apprentissage statistique. Donc là, vous mettez un réseau de neurones qui observe le plateau de jeu au travers d'un réseau de neurones convolutionnel ou quelque chose comme ça. Et donc vous avez votre fonction valeur courante, un peu de MCTS dessus qui vous donne une meilleure fonction valeur. Vous entraînez un réseau de neurones directement sur la nouvelle fonction valeur, ce qui vous permet un peu d'extrapolation. Et puis, vous recommencez, vous itérez. Et ça, ça marche. Ça dépend beaucoup des détails, hein, le diable est dans les détails. Mais ils ont, donc chez DeepMind, ils ont réussi à faire marcher ça, et ça, c'est le principe de AlphaGo 0. La nouvelle version, AlphaGo 0, c'est la version la plus récente, qui n'utilise pas du tout de données expertes ou d'entraînement avec, sur des parties humaines ou des choses comme ça, qui utilise purement ces principes de calcul. Donc, AlphaGo 0, vous avez une fonction V approximée, un max, un expected max ou un maximin qui est fait sur quelques étapes avec du Monte Carlo Research, et ça vous donne une nouvelle fonction valeur que vous faites apprendre par un réseau de neurones, régression, en fait, c'est de la régression, et vous recommencez. Donc ça, c'est assez important. Bien sûr, ça garde les limitations du Monte Carlo Research, à savoir, on est dans un état discret, on doit lister toutes les valeurs, tous les états visités, etc. etc. Quand on est dans des environnements type stationnaire, par exemple, si vous voulez faire un robot, un contrôleur pour un robot qui marche sans tomber, vous ne pouvez pas faire ce genre de choses parce que vous êtes en environnement continu, vous avez de la stochasticité, vous n'avez pas de fin de partie clairement identifiée, donc vous devez raisonner en régime stationnaire, etc. Et donc, dans ces cas-là, vous devez revenir sur l'équation de Bellman. Donc l'équation de Bellman que j'ai écrite ici à horizon 1. Donc l'équation de Bellman, qu'est-ce que vous faites en général ? Vous cherchez dans une famille paramétrique, donc vous avez une liste de fonctions qui dépendent d'un paramètre θ, et vous cherchez le meilleur θ dans votre famille de fonctions qui rend cette équation aussi vraie que possible. Et ça vous donnera une approximation de la fonction valeur de votre environnement. Alors, il y a des tas de problèmes. Donc, qu'est-ce que vous prenez comme famille de fonctions ? Le cas discret correspond à maintenir séparément une fonction valeur pour chaque situation du jeu possible. Donc, c'est ce qu'on appelle le cas tabulaire. Donc, ça marche une fois de plus que dans les environnements discrets. Et surtout, si vous avez une valeur indépendante, donc un paramètre indépendant pour chaque état du jeu, ça veut dire que si vous voulez apprendre quelque chose, il faut visiter tous les états possibles un grand nombre de fois pour pouvoir faire des statistiques. Donc ce cas-là, il est très bien compris théoriquement, on peut écrire des tas de théorèmes dessus, mais il faut garder en tête que le cas tabulaire avec une fonction valeur séparée pour chaque état du jeu, ça ne marche que dans les jeux discrets, que dans les environnements discrets, et que si vous visitez chaque état possible un grand nombre de fois. Donc c'est des limitations assez importantes. Par contre, des théorèmes, il y en a. Ensuite, vous avez une autre possibilité, c'est par exemple de faire une famille linéaire. Imaginez que vous vous dites, ma fonction valeur aux échecs, elle dépend du nombre de pions que j'ai, du nombre de tours que j'ai, etc., etc., avec des coefficients que je ne connais pas très bien. Donc dans ce cas-là, vous avez envie d'écrire que votre fonction valeur, vous allez l'approximer comme A1 ou 1 AT, vous allez l'approximer comme ça, avec un certain nombre de fonctions de base que vous pouvez, par exemple, encoder à la main. Ça peut être le nombre de pions que vous avez ou de tours que vous avez aux échecs. Ça peut être une base de Fourier ou d'ondelettes. Ça marche bien dans les espaces continus en pas trop grande dimension parce que du coup vous pouvez les lister. Ça peut être des fonctions que vous apprenez par ailleurs. Par exemple, vous pouvez prendre un réseau de neurones pré-entraîné pour analyser les images, dire je prends ce réseau de neurones fixe, je sais que lui il est bon pour reconnaître des images en général, ça me fait un phi. Puis vous prenez un autre réseau de neurones pré-entraîné pour reconnaître de l'audio ou du texte, et vous me dites ça fait un autre phi, et comme ça, ça vous permet d'exploiter des réseaux de neurones déjà pré-entraînés pour faire certaines choses. Donc on peut faire ça, c'est quand même déjà assez riche, hein, mine de rien, si vous mettez beaucoup de fonctions phi pré-entraînées ou même apprises par ailleurs pour apprendre des features pertinentes de votre environnement, Par exemple, une stratégie qui est raisonnable, c'est de dire, vous faites un espèce de réseau de neurones récurrents qui prend toutes les observations passées et qui essaie de prédire l'avenir, indépendamment des récompenses ou quoi que ce soit, donc purement problème d'apprentissage de l'avenir. Ce réseau de neurones récurrents, il a des tas de features internes, et ensuite, vous pouvez prendre ces features internes, en faire une combinaison linéaire, et ça, ça vous donne un candidat pour Vθ. Et ensuite, vous cherchez à ajuster θ. L'avantage de ça, c'est que dans le cas linéaire, la convergence est garantie. Converge vers... Alors, le problème, c'est que la convergence est garantie, mais que ça converge vers quelque chose. On sait que ça ne diverge pas, mais la convergence de l'algorithme n'est pas forcément vers le minimiseur dans votre famille, c'est vers autre chose. Mais au moins, il ne diverge pas. Alors, pourquoi je vous ai parlé de cet algorithme ? Parce qu'on a envie de dire, en principe, comment est-ce que j'apprends θ ? Je veux qu'une certaine égalité soit satisfaite. Et bien, si on est un petit peu dans l'esprit machine learning, on fait la différence entre le membre de droite et le membre de gauche, on l'élève au carré, on appelle ça erreur, et on fait une descente de gradient sur θ. Est-ce qu'on peut faire ça ? En général, on ne peut pas faire ça. Pourquoi on ne peut pas faire ça ? Parce que ici, vous avez une espérance sur les réactions de l'environnement, et si vous faites droite moins gauche au carré et que vous dérivez, vous allez avoir deux termes, un avec les dérivés de l'espérance et l'autre avec l'espérance. Et le problème, donc, ça veut dire que vous allez avoir deux espérances. Et donc, vous devriez être capable d'échantillonner deux fois la réaction de l'environnement dans le même état. Donc vous devriez être capable de rejouer, en fait. Et ça, dans certains cas, c'est possible. Dans les jeux vidéo, c'est possible. Dans la vie, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas échantillonner deux actions indépendantes et prendre la dérivée de l'une et prendre l'autre, ce qui vous donnerait une estimée du gradient. Donc, on ne peut pas, en général, faire la descente de gradient de l'erreur dans cette équation. Ce qu'on fait, c'est quelque chose qui est plus proche de l'esprit du minimax et de la propagation de l'information vers la fin du jeu, vers le début du jeu. C'est que on prend la valeur de droite, on la fixe, et ensuite, on ajuste uniquement la valeur de gauche par descente de gradient pour la rapprocher de la valeur de droite. Et ça, c'est l'algorithme du Q-learning ou de la temporal difference, TD ou Q-learning. Et ça, c'est un algorithme différent qui n'est plus une descente de gradient, qui respecte l'esprit du minimax, mais qui n'est plus une descente de gradient. Et donc, on n'a pas de garantie théorique, et même dans certains cas, on sait que ça diverge. Il y a des exemples très simples. Pourquoi ? Parce que, en fait, quand vous changez θ dans la valeur de gauche, bah, ça vous change la valeur de droite. Et donc, par exemple, si vous avez même un espace à deux états et que vous prenez une fonction, dans le cas linéaire, une fonction phi de base qui est comme ça, et que vous dites, je veux rapprocher la valeur de gauche de la valeur de droite, vous allez augmenter la valeur de gauche, mais ça va encore plus augmenter la valeur de droite. Et donc, ça va diverger. Donc ça, c'est un cas très simple. Alors, en moyenne, en fait, on espère que ça va se compenser parce que vous allez passer sur l'état de gauche et sur l'état de droite un grand nombre de fois. Et donc, l'état de droite, quand vous appliquez l'équation dans l'état de droite, il va s'apercevoir qu'il y a un problème. Mais si vous ne visitez que l'état de gauche ou même si vous visitez trop souvent l'état de gauche par rapport à l'état de droite, ça va diverger. Donc là, il y a un phénomène qui un peu délicat qui se passe. Et il y a des cas de convergence connus. Il y a deux cas. Le cas d'une fonction linéaire où on visite tous les états avec des fréquences raisonnables. Donc dans ce cas-là, ça converge vers quelque chose qui n'est pas le minimiseur, mais qui a le mérite de ne pas diverger. Et l'autre cas où ça converge, c'est Vθ quelconque, et un environnement réversible. Et dans ce cas-là, vous avez la convergence. Qu'est-ce que c'est qu'un environnement réversible ? C'est un environnement où il n'y a pas de sens du temps. Donc, si vous regardez des trajectoires dans l'environnement, vous ne pouvez pas dire si l'environnement va vers l'avenir ou vers le passé. Donc, c'est le cas, par exemple, si vous avez un potentiel et que vous avez des fluctuations aléatoires d'une particule dans le potentiel, la particule, c'est vous. Dans ce cas-là, vous allez avoir clairement un endroit où la reward est maximale et vous vous promenez autour, mais vous finissez par y revenir, et donc la loi de vos excursions, elle est symétrique dans le temps, plus ou moins. Et dans ce cas-là, on a la convergence. Donc ça, c'est un théorème que j'ai démontré l'an dernier. Et ce qui est amusant dans ce cas-là, c'est que l'algorithme dont je vous ai dit que ce n'était pas une descente de gradient de l'erreur, en fait, ça devient une descente de gradient, mais d'une autre erreur un petit peu différente, qui vient de la théorie des chaînes de Markov et de l'analyse harmonique qui s'appelle la forme de Dirichlet. Et dans ce cas-là, comme vous avez une descente de gradient d'une erreur, mais une erreur un peu plus subtile, eh bien, la descente de gradient, on sait que ça converge vers un minimum local. Et en fait, c'est ainsi et seulement si, c'est-à-dire que c'est le cas réversible, c'est le seul cas où ceci est une descente de gradient d'une erreur. Et puis, ça s'étend un petit peu, c'est-à-dire si votre environnement est raisonnablement réversible, vous allez avoir une convergence raisonnable. Et raisonnablement réversible, ça veut dire à peu près pour les actions que vous pouvez faire ou défaire facilement. Donc se déplacer dans une pièce, par exemple, c'est un environnement raisonnablement réversible, disons. Et donc dans ce cas-là, si les bons opérateurs ont les bonnes normes, si la réversibilité est grande par rapport à la non-réversibilité, on peut écrire des garanties de convergence. Mais ça reste assez limité. Et il y a quand même quelques problèmes avec cette équation. Et je voudrais vous convaincre que le problème est quand même vraiment difficile mathématiquement. Donc, dans vos cours d'apprentissage par renforcement, on vous a dit qu'il y a une unique fonction V. Ce n'est pas vrai. C'est vrai sur les espaces finis, avec un coefficient de dévaluation, donc decay factor, coefficient de dévaluation strictement plus petit que 1. Mais de manière générale, vous n'avez pas unicité. Je vais vous donner des exemples. Donc, vous avez, par exemple, si vous vous baladez sur une ligne droite entière et que votre environnement vous emmène un coup à gauche ou un coup à droite et que vous pouvez aller un coup à gauche, un coup à droite avec proba 1/2, votre fonction V de l'état X, c'est, en gros, je vous dis, imaginez que chaque instant vous coûte quelque chose et que vous devez aller le plus vite possible sur une valeur cible. Donc si vous ne faites rien, vous perdez 1 par coup, et ensuite vous pouvez choisir d'aller sur un de vos voisins, donc V de X plus 1 ou V de X moins 1. Bien, donc si vous vérifiez, vous avez une solution qui est V de X égale X, ou V de X égale moins X. Ce sont deux solutions. Il y en a une qui croit que la récompense est vers l'infini de ce côté-là, et l'autre qui croit que la récompense est vers l'infini de ce côté-là. Donc ça vous montre qu'il y a une propriété mathématique de l'équation de Bellman qui est qu'elle n'est pas du tout locale. C'est-à-dire que vous avez des solutions qui localement ont l'air d'être très bien et qui sont très très loin de la vraie solution que vous voulez. Donc par exemple, si vous prenez cet exemple-là où que vous vous baladez dans une pièce et que vous perdez 1 par récompense, mais que vous voulez atteindre la sortie le plus vite possible, et qu'il y a deux sorties, une à droite, une à gauche, la vraie fonction valeur, c'est essentiellement moins la distance à la sortie. Vous perdez du temps tant que vous vous baladez vers le milieu, et donc vous allez le plus vite possible vers un des deux bouts. Mais vous avez une quasi-fonction valeur qui est l'opposé de ça. Alors ça, c'est une quasi-fonction valeur. Pourquoi ? Parce qu'elle vérifie Bellman presque partout, sauf au milieu. Et le milieu, c'est un point que vous voyez rarement, en général. Et donc, si vous avez un mauvais échantillonnage dans votre algorithme d'apprentissage, vous n'allez jamais voir qu'il y a un problème au milieu, et vous allez apprendre une fonction V qui vérifie Bellman, qui a l'air de vérifier Bellman partout, sauf en un point que vous n'avez jamais vu, et qui est complètement, complètement, complètement fausse. Alors, et là, je suis sur un espace fini, hein. Je peux vous discrétiser le petit segment, là. Donc, sur un espace fini, vous avez en général, normalement, unicité. Sur un espace infini, ça n'est pas vrai, mais même sur un espace fini, vous avez un résidu, si vous voulez, de la non-unicité sur les espaces infinis, qui est, il y a beaucoup de quasi-solutions de l'équation de Bellman qui sont très différentes de la vraie solution. Et ça, c'est vraiment un problème fondamental, à mon avis, dans l'équation de Bellman. Évidemment, dans ce cas-là, si vous choisissez des politiques d'exploration qui cherchent à maximiser, ce qui est souvent le cas, on va du coup aller vers le milieu, puisqu'on croit que l'optimum est au milieu, donc on va aller vérifier, et une fois qu'on sera arrivé au milieu, on va bien s'apercevoir que c'est pas le bon, et dans ce cas-là, il faut tout défaire et tout recommencer. Donc ça, c'est un vrai problème. Le problème est un petit peu amélioré par l'introduction de coefficients de dévaluation, donc le fameux decay factor gamma. Moi, j'aime pas ça. parce que donc on introduit un facteur de myopie gamma qui est plus petit que 1 qui dévalue les récompenses futures par rapport aux récompenses actuelles. Et ensuite, on construit toute la théorie sur le fait d'avoir introduit ce facteur de myopie à la main. Et évidemment, dans les applications, ce qu'on veut, c'est gamma très proche de 1. Donc, dans les applications réelles, c'est gamma égale 0,99 ou 0,999 dans les vrais algorithmes. Et dans les applications réelles, si on reprend la théorie, il y a des facteurs 1 sur 1 moins gamma partout si on fait la théorie grâce à gamma. Donc 1 sur 1 moins gamma avec gamma égale 0,999, ça casse tout. Et évidemment, moi, de mon point de vue, la meilleure manière d'avoir un algorithme qui marche en pratique pour gamma égale 0,999, c'est d'avoir un algorithme qui marche mathématiquement avec gamma égale 1. Et c'est pas si dur, mais les gens le font pas parce que c'est plus facile d'écrire la théorie avec gamma plus petit que 1. Donc il y a des choses qui m'agacent un petit peu dans la littérature là-dessus. Ensuite, donc, pour conclure, je vais m'arrêter là. Donc, pourquoi on a cet exemple de AlphaGo qui marche très bien? Pourquoi on s'obstine encore sur l'équation de Bellman, etc. Comme je vous ai dit, AlphaGo, ça s'applique quand même dans des situations assez restreintes. On connaît les règles du jeu. On est capable d'énumérer les états qu'on a visités, les états qu'on n'a pas visités. On est capable de faire du Monte Carlo Tree Search. On a des états discrets, etc., etc. L'environnement est fixe, non stochastique. Vous jouez contre vous-même, donc vous êtes capable de simuler l'adversaire, ce qui aide beaucoup. En vrai, on est plutôt dans des situations où on est dans des états continus, des environnements bruités, on ne connaît rien. Donc on est obligé de revenir sur Bellman, avec tous les problèmes qui sont là, qui sont que localement, il y a plein de solutions, mais la vraie solution, on est obligé de tenir compte d'un comportement global, de ce qui se passe à la fin du jeu, si vous voulez. De propagation de l'information de l'avenir lointain vers le présent. Et on est obligé donc de traiter ça avec Bellman dans des environnements de type stationnaire. Et donc vous êtes obligé de revenir là-dessus et donc vous avez tous les problèmes qui vont avec. Et les gens n'aiment pas trop pour le moment prendre un peu l'approche bayésienne parce que ça nécessite de développer des modèles de l'environnement. Et ça, c'est pas si facile. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous voulez obtenir la bonne quantité d'exploration, vous êtes obligé, d'une manière ou d'une autre, de modéliser l'incertitude que vous avez sur l'environnement. Donc les priors bayésiens sur l'environnement, c'est une manière de faire ça. Si vous faites ça, vous allez avoir, de manière canonique, quelque chose qui dit « là, maintenant, il faut acquérir l'information, donc il faut faire telle action pour aller acquérir de l'information ». Pour modéliser l'incertitude, et il y a une autre raison pour laquelle les priors bayésiens sont, à mon avis, aussi absolument indispensables, qui est, si vous appliquez une méthode statistique classique du type théorème sur les systèmes finis, etc., ces théorèmes-là vous disent qu'il faut visiter chaque état un nombre infini de fois. Donc, pour vous apercevoir que quand vous foncez dans le mur, ça fait mal, il faut le faire un million de fois. Si vous avez un prior bayésien sur les environnements qui vous permet de dire « j'ai construit un petit modèle de mon environnement, avant d'essayer de voir si je vais aller dans le mur, je fais une petite simulation dans mon modèle, je vois que la simulation dans mon modèle me dit que je vais avoir mal, donc je résous le minimax dans mon modèle, en fait, et du coup, je ne fonce pas dans le mur. » Donc ça, c'est des choses que les gens font pas trop, et c'est des choses à faire pour l'avenir. Mais en tout cas, même sans faire ça, les choses sont déjà assez compliquées à cause de limitations fondamentales de ce type-là dans l'équation de Bellman. Donc c'est vraiment un problème mathématiquement difficile, empiriquement difficile, intellectuellement difficile, puisqu'on tombe immédiatement sur les notions de prior universel, sur l'environnement, etc. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Et je vais m'arrêter là, merci.